There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et bienvenue dans le FC Stream Team où on retrouve quand même le duo de choc. Le vrai duo.
Ouais. D'ailleurs, c'est bien.
Maxime Dupuis, Martin Mosnier.
C'est bien que tu aies commencé, parce que je pense que les gens. Et que tu te sois présenté, parce que les gens ne savaient peut-être plus qui tu étais.
C'est vrai, mais ça fait quand même. Peut-être un petit mois qu'on n'a pas présenté tous les deux, Maxime.
Oui.
On a laissé le bébé à. Bah, plus médiocre, mais à un moment.
Moins bon.
Voilà.
Et en plus, moi j'ai pas pris de vacances, donc ça devait être parce que t'en avais pris, je pense.
Bah oui, j'ai pris quelques jours de repos, effectivement, pour me reposer. Et t'aurais bien fait de te reposer toi aussi, Maxime, parce que là, j'ai sous les yeux la feuille de préparation de Maxime de l'émission. Donc il y a trois sujets. Premier sujet, il a rien mis. Deuxième sujet, il a rien mis. Troisième sujet, il a mis quatre mots impossibles à lire. Donc ça annonce une émission catastrophique du côté de Maxime.
Je vous laisserai juge de mes arguments. Tout est dans...
Mais pourquoi tu mets, alors le premier sujet sera sur Fonseca, pourquoi tu mets Fonseca et rien en dessous?
Parce que en fait j'organise ma feuille là, parce que quand tu vas balancer des arguments, je vais peut-être noter. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos sur site, vous voyez peut-être que des fois je n'écoute pas. Je donne l'impression de ne plus m'écouter et je note un ou deux mots, voilà.
Des mots-clés,
un argument.
Et d'ailleurs, on démarre par Luis Enrique, donc je ne sais pas pourquoi tu l'as mis en sujet 2.
Parce que c'est sujet central.
Ouais, d'accord.
Quand il y a un argument fallacieux de Martin, je peux rebondir, voilà. Et alors, on a fait un truc la semaine dernière. Alors, enfin, c'était un truc, c'était de l'impro total. Les petits savoirs inutiles qui ouvraient l'émission. Et là, j'en ai pas cette semaine, c'est dommage parce que...
En tout cas, du coup, tu fais bien de le rappeler. Ouais. Tu fais bien de rappeler que tu l'as fait la semaine dernière pour dire
que... C'est vrai que j'aime bien ces petits trucs-là où tu dis un truc, les gens qui écoutent se disent... Ah ouais, quand même, c'est intéressant.
Un truc que tu leur rapportes et qui n'a aucun intérêt, c'est ça?
Ouais, enfin...
Globalement, c'est tout ce que tu dis dans l'émission.
C'était autour de l'alimentation du panda.
Ok, d'accord. J'ai pas écouté la semaine dernière,
tu vois.
Ah
ouais, t'aurais
dû. Bah, j'aurais dû. Trois sujets.
Trois sujets cette
semaine. On va démarrer avec le titre qui est aujourd'hui, on va dire, plus que probable, voire plus que probable du Paris Saint-Germain.
Comme depuis le 1er juillet.
On va se poser cette question. Qui est l'homme central de ce titre, l'homme le plus important de ce titre? Est-ce que c'est Luis Enrique ou est-ce que c'est Kylian Mbappé?
On se penchera ensuite sur le cas de l'Olympique de Marseille qui va encore une fois tout changer à l'intersaison. On ne va pas dire que ça nous étonne, mais c'est comme d'habitude. Mais là, surtout, l'OM est obligé de tout changer, entraîneur, effectif, etc. Nos confrères de l'équipe annoncent que Paulo Fonseca est la cible prioritaire des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour vous, est-ce que pour nous, on pense que Fonseca est l'homme qu'il faut à l'OM? On en débattra lors de la deuxième partie de l'émission.
Et on terminera avec l'arbitrage français en se posant la question, est-ce qu'il a touché le fond? Il y a une crise de gouvernance, une crise avec les clubs et surtout, et plus que tout, et c'est ce qui est le plus dommageable, c'est qu'il y a des polémiques sur le terrain à peu près à tous les matchs maintenant. On a l'impression d'un joyeux bazar, pour rester tout à fait poli, au sein de l'arbitrage français. Et là, Maxime vient de noter quelque chose, par exemple.
Parce que quand t'as dit quelque chose, ça me fait penser à autre chose.
Oh là là. C'est t'es un homme de fulgurance.
Non, mais moi, quand on me demande mon boulot, des fois, ma fonction, je dis je suis saltimbanque.
C'est vrai.
Saltimbanque de l'info. Ouais. C'est-à-dire que le journaliste, c'est un boulot d'équilibriste.
Ouais.
C'est-à-dire que t'as une partie qui est routinière, parce que les gens croient que c'est toujours différent. Mais non, c'est une routine, le journalisme.
Mmh.
Mais...
Tu vas où, là? Okay.
T'es sur un fil et il y a des moments... Hop, tu ramasses quelque chose, tu vas améliorer ton propos. Hop, tu vas de l'autre côté.
D'accord.
Tu vois, c'est le funambule, tu vois. Je traverse le Grand Canyon. Mmh. Cette émission, c'est la traversée du Grand Canyon.
Ouais.
J'ai ma barre. Ouais. Je suis pieds nus sur le fil.
Bah là, t'as pas de barre, là, j'ai l'impression.
Et j'avance.
Et le fil, il est très fin. Hein. Tu vas te casser la gueule. Hein.
Eh ben.
Je pense que le fil va céder.
Le fil va céder.
Ou au moins, tu vas tomber, Max.
Et d'ailleurs, alors, je l'aurais bien annoncé maintenant, mais la semaine prochaine, on sera peut-être dans un nouveau studio.
Ah bon? Ah, c'est dès la semaine prochaine?
Ah bah,
d'accord.
Logiquement, Simon Farvac, qui est à la réalisation de l'émission, peut-être. Alors, je ne sais plus si ce sera. Non, ce ne sera pas lui la semaine prochaine, je pense. Mais en tout cas, on sera peut-être dans le nouveau studio.
Ce qui ne change rien pour ceux qui nous écoutent, mais ce qui change tout pour ceux qui nous regardent.
Ouais, mais alors, on va être sur une station debout.
Ah !
Ce qui change beaucoup de choses. Moi, je suis plus dynamique quand je suis debout.
Ok.
Je préfère, tu vois. Là, on est assis sur un tabouret haut qui donne un peu de dynamisme parce qu'on ne s'affale pas. Mais n'empêche que quand tu es debout, on en revient en funambule. Il faut rester en équilibre, tu vois. Il faut être sur le qui-vive.
Ok, on va être sur la métaphore du funambule du début à la fin. À vous de juger si Maxime se casse la tronche ou pas.
Ouais. On va tirer le fil jusqu'au bout.
On va tirer le fil jusqu'au bout. Alors, on va démarrer avec le premier sujet où déjà Maxime va se vautrer royalement. le PSG va être champion ce samedi face au Havre et on va se poser cette question. Qui a été le plus important dans la saison du Paris Saint-Germain, dans le sacre du PSG? Est-ce que c'est Luis Enrique, le coach, ou est-ce que c'est Kylian Mbappé, le buteur? Nous ne sommes pas d'accord. Maxime défend...
L'indéfendable.
Non, pas l'indéfendable, mais vas-y, expose-nous tes arguments. Pour toi, c'est Luis Enrique.
Pour moi, c'est Luis Enrique. Pourquoi? Parce qu'il est le premier depuis longtemps qui... Alors, je ne vais pas dire qu'il fait ce qu'il dit, parce que des fois, ce qu'il dit, on n'y comprend pas toujours quelque chose, mais qui a pris la main et qui a un peu décidé de faire fi du contexte, de faire fi des pressions des joueurs, de faire fi sans doute des pressions aussi... qui n'existe plus trop de la direction, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui l'homme fort à bord. Je le dis tout de suite, alors déjà, qu'il soit champion de France, c'est pas un exploit, on va pas non plus se mentir, parce que le PSG et parce que ce championnat, cette année, qui est particulièrement faible derrière, Monaco qui est loin, on parle pas de Marseille et de Lyon, évidemment. Mais je trouve qu'il a en fait un peu annoncé la couleur et il était peut-être finalement l'homme qu'il fallait à ce Paris Saint-Germain-là, à ce moment-là de son histoire. C'est un été, évidemment, où on a fait place nette. Messi, Neymar sont partis. Et si Neymar est parti et si Verratti est parti, c'est Luis Enrique. C'est-à-dire que c'est le premier à, j'allais être trivial, je vais pas l'être, à prendre les choses en main, on va dire, et dire, bah non, toi, je veux plus de toi, toi, je veux plus de toi, on va faire comme je veux et avec ce que j'ai. Première journée, PSG-Lorient. Le PSG fait 0-0 contre Lorient parce que Mbappé est encore au placard. Il y a quelque chose dans ce match-là qui fait qu'il annonce la couleur de la suite, c'est-à-dire qu'il les fait jouer, c'est une équipe cohérente. Une équipe qui ne sera pas cohérente toute la saison, mais en fait, si elle n'a pas été cohérente toute la saison, c'est de sa faute, parce qu'il a tenté des choses. Quand il a joué à 4 attaquants en Ligue des Champions, c'était une catastrophe, mais il l'a tenté quand même. Il s'est un peu entêté. Et ce que je veux dire, c'est qu'il a fait tout ce qu'il voulait de A à Z. La gestion du Mbappé, là pour le coup je la regrette toujours parce que je trouve que c'était ni fait ni à faire. S'il jugeait qu'au début de saison il n'avait pas besoin d'Mbappé et qu'il fallait préparer la suite, il avait qu'à le mettre un peu sur le banc de temps en temps et pas faire ce qu'il a fait à partir du moment où le joueur a annoncé à ses dirigeants qu'il voulait partir. Mais n'empêche, il l'a fait. Il a passé de haute pression. Quand il a voulu sortir à la mi-temps à Monaco, il l'a fait. Donc je pense que, est-ce que c'est l'homme le plus important? Je ne tournerai pas comme ça. Je dirais que c'est l'homme fort de ce Paris Saint-Germain qui en manquait cruellement. Enfin, du moins, il y en avait sur le terrain, mais ce n'est pas là que les hommes forts doivent être. Pour moi, c'est sur le banc. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a bien fait. Le PSG va être champion. Le PSG est en finale de la Coupe de France. Le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Peut-être que dans deux semaines, on dira que c'est un échec parce qu'ils se sont fait sortir par Dortmund. Mais en tout cas, pour l'instant, il est là où il devait être. Et si le PSG est là où il devait être, c'est parce que Luis Enrique a pris les décisions qui s'imposaient à un moment donné, même si, je le répète, pour Mbappé, voilà, c'était pas la décision que j'aurais prise. Je suis pas en train de PSG, peut-être qu'avec moi, le PSG serait vautré.
Il a pris les décisions qu'il fallait une fois qu'Mbappé a dit qu'il voulait partir du Paris Saint-Germain, quand même. Donc il y a quand même toute une moitié de saison où il a... Où il a fait de Mbappé son meilleur joueur. Où
je
il
te
a,
coupe
il
pas tout de suite, touché. Mais je note.
Vous avez entendu le stylo sur la feuille. Moi, là où je te rejoins, c'est que la saison du PSG, pour moi, elle est effectivement divisée en deux séquences. La première marquée par Mbappé, la seconde marquée par Luis Enrique, où effectivement, il met la main sur cette équipe à partir du moment où il décide de sortir Mbappé et, comme il l'a dit, préparer la saison prochaine, même si j'ai des doutes
oui,
là-dessus.
C'est une connerie.
Voilà, c'est une connerie, on est d'accord. Après, pour moi, ce qui différencie et ce qui a permis au PSG de largement dominer cette saison, ce qui a fait la différence entre le PSG et les autres, dans cette saison, pour moi, c'est Kylian Mbappé. Et je pense que sans enfin, je ne sais pas ce que serait devenu le PSG sans Kylian Mbappé. Là, on a un peu tendance à l'oublier. Et je ne suis pas certain. On a un peu tendance à l'oublier. Mais il faut se rendre compte de la saison de Kylian Mbappé. Là, maintenant, oui, il est sur le banc. Il brille un peu moins, même s'il a fait doublé de but et passe décisive face à Lorient. Voilà. Il a marqué 43 buts cette saison. Alors, toutes compétitions confondues. Et donc, c'est 38% des buts du Paris Saint-Germain.
Toutes compétitions confondues.
Toutes compétitions confondues. Et je me demande si le PSG avait déjà été aussi dépendant d'une individualité sous QSI. Franchement, je ne suis pas sûr. Parce qu'il faut se souvenir aussi, tu as parlé de Luis Enrique, tu as raison, il a beaucoup tâtonné tout ça, mais ça a ressemblé à un brouillon jusqu'au mois de février-mars, quand même, le Paris Saint-Germain. C'était quand même une équipe dont on disait qu'elle ne progressait pas. Il faut se souvenir de ça quand même. Hein. C'est, aujourd'hui, on a l'impression que tout a été gommé avec la victoire en quart de finale face au FC Barcelone. Ça en gomme une partie, en tout cas, ça donne un horizon et ça donne un but à tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Mais si on se remémore la saison du PSG, c'était un énorme brouillon. Et heureusement que Kylian Mbappé était là. Sinon, il y a plein de matchs où le PSG s'en serait pas sorti, où il aurait resté beaucoup de points en route. Et donc, pour moi, la séquence où Mbappé est capitale, primordiale, où il écrase le reste, est plus longue que celle où Luis Enrique a enfin mis tous les éléments et a enfin trouvé la formule qu'il voulait. Donc, c'est pour ça que moi, je mets Mbappé un ton au-dessus de Luis Enrique. Et encore une fois, cette fin de saison plus molle ne doit pas faire oublier tout le reste. Il faut se souvenir, par exemple, que pendant longtemps, Paris était incapable de marquer en dehors d'Mbappé. C'est-à-dire que les saisons de Ramos, de Colomouani ont longtemps été cata. Celle de Colomouani, elle est toujours par ailleurs. Que Dembélé a mis quand même 7 mois à marquer un doublé. Il faisait des différences.
Non, mais on n'attend pas ça de lui.
Mais à un moment, qui est-ce qui marquait? C'était pas Barcola, c'était pas Dembélé, c'était pas Colomouani, c'était pas Ramos. Donc il a fallu quand même que quelqu'un s'y attelle et s'y est plutôt bien attelé. Et encore une fois, il était moins bien entouré que les saisons précédentes, Kylian Mbappé, en tout cas dans le domaine offensif, ce qui reste un point important. Donc c'est pour moi, il est l'homme central. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait lui que je mettrais en avant.
Ouais, je sais pas s'il était moins bien entouré, parce que quand je vois Messi et Neymar,
ils faisaient des stats quand même, Messi et Neymar.
Oui, mais des stats, ils font des stats.
Oui, mais
le PSG sortait en 8e de finale. Oui. Tu vois, quand je vois le poste de Neymar qui fait le malin,
c'est autre chose.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il était aujourd'hui quand même... Neymar, il est en Arabie Saoudite avec les croisés et Messi fait le malin à Miami.
Oui, mais il était quand même très seul cette saison, Kylian Mbappé. Il l'était quand même un peu moins. Mais je te parle pas des résultats collectifs, je te parle de son influence sur les résultats collectifs.
Ramos aurait pu mieux faire, mais je pense que si, on en revient à Luis Enrique, s'il avait décidé de l'installer un peu plus tôt dans la saison avançante, je pense que Ramos aurait fait une saison très correcte. Voilà. Parce que je suis toujours persuadé, alors évidemment, il y a Barcola, il est bon, donc ce serait dommage de ne pas le mettre de côté. Pour moi, la meilleure attaque, ça reste, à mes yeux, Mbappé, Ramos et Dembélé.
Alors, il a noté des choses.
Non, ce qui est intéressant, ce que tu dis, il l'a mis sur le banc, et nanana, mais en fait...
Par contre... Ne m'infantilise pas. Non, ça, je ne suis pas d'accord. C'est quand même des propos que j'ai tenus qui ont un sens.
Ce qu'a fait Luis Enrique, en fait, la question qu'il faut poser, c'est qui l'aurait fait? Personne au PSG n'a osé faire quoi que ce soit. Galtier, quand l'année dernière, il sort Mbappé à 20 minutes de la fin, je ne sais plus quel match. Messi, tu le vois qui bougonne, etc. Voilà.
Mais pourquoi il l'a fait, Mbappé? Pourquoi il l'a fait?
Il le fait, c'est une mauvaise raison.
Voilà. Je pense qu'il y a eu aussi un feu vert d'en haut, de dire ok, il se barre, tu peux en faire ce que tu veux maintenant. Avant ça, il ne le sortait jamais, même quand il n'était pas bon. Donc il était dans la droite lignée des Galtier, des Pochettino, et compliqué.
Après, il l'a fait. Et en fait, ce qu'il avait montré, je suis d'accord avec toi que le brouillon, en fait, c'est très particulier cette première partie de saison, parce que je trouvais qu'il y avait des moments très cohérents de cette équipe.
Oui. Et ça n'allait jamais au bout quand même.
Quand il n'y avait pas Mbappé.
Bah oui. Mais tu t'as parlé de Lorient, ils auraient pu jouer 6 heures contre Lorient, marquer pas un but.
C'est le match de la saison. Et il y a eu d'autres matchs plus tard où Mbappé, c'est contre Lille, je crois, où ils sont plutôt pas mauvais. Et ça, bon, bref. Moi, ce que j'ai aimé sur Luis Enrique, c'est aussi le corollaire de ça, c'est qu'il n'a pas cédé à la pression. Et finalement, comme tu dis, le brouillon de début de saison, peut-être que dans un mois, on se dira, le brouillon, en fait, c'était un brouillon, mais qui préparait la belle copie de la suite.
Oui.
Je pense que Luis Enrique a un défaut, c'est de s'entêter et de vouloir avoir raison. Le coup des quatre attaquants, le match de Marseille, il joue à quatre attaquants, oui, mais quand on voit Marseille ce soir-là, qui n'est pas capable de sortir un ballon, ils auraient pu jouer même à 10 attaquants, je pense qu'ils auraient gagné. Contre Newcastle, ils se sont plantés, il n'a pas voulu changer tout de suite, en faisant croire que c'était une solution. Je pense qu'il est aussi intelligent, et peut-être même plus que les gens qui regardent le foot. Il savait très bien que ça allait nulle part, mais il a besoin de s'entêter. En fait, c'est là où il tire sa légitimité, à mes yeux, en plus des titres qui vont arriver, au moins d'un titre qui va arriver, c'est qu'il est capable de maintenir une ligne. Voilà. Et encore une fois, c'est la grosse différence avec tous les entraîneurs qui sont passés au PSG avant. C'est-à-dire que Tourelle et compagnie, ça fait les malins en disant « moi, j'ai la main ». Non, il a la main sur rien. C'est-à-dire qu'il mettait, il faisait l'équipe, mais l'équipe, elle était déjà à moitié remplie avant de mettre les noms. Là, Luis Enrique, assume de mettre des gens de côté. Encore une fois, je le redis, ouais, Mbappé, mais... j'aime pas cette gestion-là. Mais n'empêche qu'il l'assume et... Bah, ça joue sur ça, parce que si toi tu es un autre joueur de l'effectif, tu dis bon, ok, il met Mbappé de côté, c'est-à-dire que moi, il ne va pas s'embêter pour. Donc ça pousse aussi à être beaucoup plus exigeant.
Mais parce qu'aussi, il a eu l'environnement nécessaire pour pouvoir mettre ces choses en place.
Oui.
Je veux dire, Raifi n'a retenu ni Messi ni Neymar.
Ouais, mais il se les crée l'environnement.
Oui, il se les crée en partie, notamment sur Verratti.
Voilà, est-ce que les autres entraîneurs. Je peux pas croire.
Oui, mais en fait, si tu veux, il arrivait après 2 ans de Messi qui ont été catastrophiques.
Et après 5 ans de Neymar.
Et à un moment où Paris a voulu changer de stratégie. Et celui qui donne ce cap-là, c'est pas Luis Enrique.
Oui, mais il y avait déjà eu un début de stratégie nouvelle avec Galtier. C'était quand même, on en sort du bling-bling. N'empêche que qu'on a vu.
Ils étaient encore tous là.
Eh ben oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'était pas allé au bout. Et Galtier, qu'on défendait et qu'on appréciait beaucoup et qu'on apprécie toujours. N'a pas eu le courage, n'a pas eu peut-être les coups d'effrange aussi de dire bah ok je viens mais Neymar ça sort, parce que encore une fois la différence c'est que Enrique lui il en a entraîné des joueurs comme ça, il a notamment entraîné Neymar et il a pas de problème avec ça. Galtier c'était j'arrive un peu à Disneyland en fait, voilà, donc en gros il y avait toute cette force à sa disposition, c'est très compliqué, il fallait mettre les entraînements etc. Là, je suis pas sûr qu'avec Enrique ça fonctionne comme ça, voilà,
et
c'est
ça, on saura jamais en fait,
on saura jamais, mais ce qu'on saura à l'arrivée et on le verra. Évidemment, peut-être que la semaine qui vient, les 10 jours qui viennent effaceront tout ce qu'on vient de dire, parce que si le PSG se plante face à Dortmund, et quelle que soit, j'ai envie de dire, la manière dont il se planterait, ça ferait tâche, parce qu'on se dirait le parcours, le tableau était ouvert, et tomber contre Dortmund, c'est vraiment dommage. Mais n'empêche que à cet instant T, il a fait ce qu'on lui demandait, et on l'a vu la stat tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'oublie, parce que des fois, ça a été cas, et encore une fois, le championnat de France, pas la compétition la plus relevée, mais n'empêche qu'il n'a perdu qu'une fois. Les chiffres n'effacent pas tout, mais peut-être que dans un mois et demi, on se dira que bah oui, il y avait juste une montée en puissance qu'il a orchestrée. Alors évidemment, il faudra se rappeler aussi que le premier tour de la Ligue des Champions est passé avec 8 points. Ouais. C'est le nombre de points qu'avait Lens. Et 8 points, c'est, pour le PSG, c'est pas digne d'un club comme ça. Mais à l'arrivée, ils seront peut-être au bout. Donc c'est très dur à lire, mais au moins... Disons qu'il a tenu bon dans sa direction et les faits jusqu'ici lui donnent raison.
Oui, mais c'est en ça que je dis que pour moi cette saison est plus marquée par l'omnipotence de Mbappé que par le...
Qui fait pas un très bon premier tour d'ailleurs, Mbappé.
Qui fait pas un très bon premier tour, mais qui en Ligue 1 par contre est d'une régularité sans faille. Ça compte aussi. Moi je trouve qu'aussi à mettre au crédit de Luis Enrique, c'est qu'il a... Moi ce que je trouve très fort à Paris, c'est qu'il a réussi à enclencher un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs et des joueurs qui n'étaient pas forcément programmés pour réussir à Paris. Le meilleur exemple, c'est Barcola, auquel tu parlais d'entêtement tout à l'heure dans le système de jeu, dans l'empreinte qu'il voulait donner, mais avec Barcola aussi, il s'est entêté. Parce que Barcola, ça n'a pas été non plus... Il faut se souvenir de sa rentrée en jeu contre Newcastle ou sa fin de match contre Newcastle où il est...
C'était tendre.
Ah ouais, tendre. Et où il s'obstine avec lui. Et finalement, c'est Barcola qui va qualifier le Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pareil avec Dembélé quand il doutait beaucoup. Et cette confiance qu'il a eue en quelques joueurs... ces mecs-là sont devenus des joueurs clés et c'est un peu comme ce que tu as expliqué avec le système, avec ce qu'il a voulu mettre en place du côté du collectif, c'est que pendant très longtemps on s'est demandé où ça le menait. La destination aujourd'hui on l'a pas tout à fait, mais donne un sens à tout ça comme tu le disais. Pour moi le processus a été trop long pour qu'on fasse de Luis Enrique l'homme le plus important du PSG. C'est juste ça, voilà.
Ouais, après, si le processus débouche sur une finale de Ligue des Champions...
Ah, mais bien sûr. Non, mais bien sûr.
Mais en fait, c'est marrant parce que ce PSG-là est l'exact inverse quasiment de l'année dernière. C'est-à-dire que ça part fort. Bon, il y avait la Coupe du Monde avec du 7-1 à Lille, etc. Ça a tâtonné et puis ça arrive. En fait, la confiance et tout s'embrique bien pour Paris au moment opportun. Et c'est peut-être aussi lié à l'expérience d'un entraîneur comme Luis Enrique
qui a gagné la Ligue des Champions.
Bon et qui a l'habitude de ça. Donc voilà, mais tout ce qu'on dit là sera peut-être balayé dans 10 jours.
Mais c'est la beauté de nos métiers.
C'est la beauté de notre métier. Voilà,
c'est qu'il n'y a aucune vérité.
Qu'il n'y a aucune vérité et qu'on oublie aussi ce qu'on dit d'une semaine sur l'autre.
Et surtout, ce qui est important, c'est que ceux qui nous écoutent oublient ce qu'on dit. C'est surtout ça qui est très important, parce que s'ils notaient tout, on passerait pour des sacrés bâtards.
Malheureusement, je pense qu'ils n'oublient pas, parce qu'il m'arrive très régulièrement de recevoir des messages où on me rappelle des choses que j'ai dites, en bien ou en mal, et qu'on me rappelle même des fois des paris que j'ai faits. qui me force à chanter à la veille d'une finale de Coupe du Monde. Voilà.
Ah oui, je me souvenais plus de ça.
Voilà. Donc, tu vois, c'est le... Et tu vois, quand tu reçois ça, tu dis, bon, je ne vais pas répondre. Et bon, tu te dis, je suis loyal. Et je
mais que celui qui a eu tout juste dans ses analyses football depuis, ça fait combien de temps, 8 ans qu'on fait cette émission,
c'est ça. Se lève.
Se lève.
Ou voilà. Se taise à jamais.
Voilà, et vous êtes tous assis, évidemment. On passe au deuxième sujet, Maxime.
On passe au deuxième sujet. On va parler de l'Olympique de Marseille qui finit sa saison. Alors, sur une note et laborieuse et excitante, puisque laborieuse, parce qu'en championnat, c'est terminé depuis belle lurette. Ça n'ira pas en Ligue des Champions. Il reste un petit espoir pour la 7e place, si toutefois elle était qualificative. Mais l'OM se retrouve à 3 matchs. Un, d'une qualification en Ligue des Champions et peut-être, cerise sur le gâteau, d'une victoire en Europa League, ce qui est improbable au vu de ce qu'on a aperçu tout au long de la saison. L'OM, en tout cas, l'été prochain, aura un nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset. Ce sera terminé. Nos confrères de l'équipe parlent de la piste Paulo Fonseca, une piste qui avait été déjà enclenchée l'été dernier par Pablo Longoria, qui n'avait pas pris corps. Elle est plus plausible cette année, même s'il faudra le débaucher de Lille. Mais la question est simple, Martin. Est-ce que pour toi, Paulo Fonseca est l'homme qu'il faut à l'Olympique de Marseille?
Moi, je pense que oui. Je mets tout de suite un petit bémol. C'est quand même, j'ai l'impression que la fin de saison pourrait influencer pas mal de choses. Est-ce qu'on peut imaginer Fonseca quitter Lille, qui sera sans doute qualifié pour Ligue des Champions, peut-être snobber l'AC Milan, qui en plus du pédigré est aussi bien mieux classé que l'OM, pour aller chez un 8e, 9e de Ligue 1, même si c'est l'OM, et s'il n'y a pas de Coupe d'Europe au bout. Voilà, ça c'est une vraie interrogation que je fais. Mais au-delà de ça, moi ce que j'aime chez Fonseca, c'est que là, on va avoir à l'OM, si on caricature, un coach tableau noir un petit peu, c'est-à-dire qui nous sort un peu des profils Sampaoli, même Igor Tudor, qui mettait quand même beaucoup de ses ambitions dans l'énergie, etc. Là, on va être sur un coach tableau noir, mais c'est pas un coach tableau noir obtus et fermé, c'est-à-dire que c'est un coach qui s'est adapté aussi à la Ligue 1. Maintenant, il la connaît très bien, la Ligue 1, et quand on regarde Lille, on voit que c'est parfois une équipe qui, quand elle est en difficulté, bah, va faire tourner, va repasser par le gardien. Ce qui, lors de la première saison, était inconcevable pour lui. C'était un coach qui voulait tout le temps aller de l'avant et qui a perdu beaucoup de points comme ça. Lille jouait déjà extrêmement bien, mais perdait beaucoup de points. Là, il a rajouté un peu de pragmatisme à ses idéaux et il s'est adapté à la Ligue 1. Et ça, pour moi, l'adaptation, c'est un facteur clé pour réussir à l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça que pour moi Fonseca c'est foncièrement une bonne idée et foncièrement peut-être la meilleure des idées. En plus, il a un côté, alors ça résiste rarement au contexte marseillais, mais il a un côté aussi
calme,
ça c'est très bien, mais aussi un côté on l'a vu avec Lille, il arrive à bâtir des choses avec des jeunes, avec une vision. Alors, est-ce que ça peut superposer à Marseille, qui est tout le contraire de ça? Je pense que si on arrive à imbriquer les deux choses, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant. Et je reviendrai sur une décla de Fonseca, c'était à l'équipe en janvier, où il disait « Parfois, selon les circonstances du match, nous décidons de ne plus risquer et ça me rend fou. » Mais, au moins, voilà, c'est un coach qui... C'est pas c'est à la fois ce qu'on appelle un philosophe du foot, quelqu'un qui a des grandes idées, mais un mec qui s'adapte. Et pour moi, ce sont les meilleurs des profils. Et à Marseille, franchement, j'y crois fort à Fonseca.
Oui, je pense que sur la liste, on a vu une liste des candidats naturels, entre guillemets, à l'OM. Il y avait Franck Haise et Christophe Galtier. Galtier, ça a perdu de sa force.
Contessao aussi.
Mais alors, ce qui est en particulier avec Contessao, c'est que le président, avant l'élection, a annoncé l'avoir prolongé de 4 ans. Donc, bon, enfin, c'était un cadeau électoral. Donc, c'est un peu bizarre comme situation. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est ce qui se rapproche le mieux du candidat, on va dire, idéal et presque du pactole pour l'OM. Parce que si l'OM a eu régulièrement des entraîneurs de renom ces dernières années sur le banc, d'ailleurs, il y a toujours un décalage par rapport au terrain, là, ça ressemble à une solution intéressante parce que déjà, il fait du très bon boulot à Lille, il faut dire, depuis 2 ans. C'est pas le même contexte, mais quand même. Tu as dit qu'il s'adaptait, c'est intéressant parce que première année, qu'est-ce qu'on reprochait à Lille? C'est de très bien jouer, mais de pas marquer, en fait. Oui. C'était une équipe qui était absolument pas efficace et qui finalement a gagné en efficacité cette année et qui ressemble à une équipe plus que cohérente avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec des joueurs bien à leur place, des bonnes trouvailles aussi. Et un attaquant, un avançant. D'ailleurs, s'il vient à l'OM et qu'il peut mettre Jonathan David dans ses valises, ce serait peut-être la meilleure chose qui puisse arriver. Parce que Faris Moumbagna, j'ai peur que ce soit un peu juste pour retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine.
Mais ça dépendra beaucoup de ce qui se passe d'ici la fin de saison, c'est ça le problème.
Maintenant, c'est important, comme tu as dit, qu'il s'adapte, parce que tous les entraîneurs, ils veulent évidemment avoir le ballon, presser haut, avoir la possession, être efficace. Ça me fait penser à Farioli à Nice, qui a un plan de jeu incroyable, mais dont on attend toujours de le voir, puisque son équipe a été pendant très longtemps une équipe solide, et qui n'a jamais été une équipe vraiment de possession comme on l'imaginait avec le Farioli Ball. Maintenant, ce qui va être difficile pour l'OM, il y a plusieurs choses. C'est un, comme tu l'as dit, si l'AC Milan vient, peut-être qu'il sera convaincu par le projet, mais le problème du projet de l'OM et de Pablo Longoria, on y revient, c'est qu'il serait, je crois, le 8e entraîneur de Longoria, le 8e personne à s'asseoir sur le banc depuis qu'il est là. Donc ça fait beaucoup. Au bout d'un an, ils partent tous. Alors là, cette année, il y en aura eu 4, donc c'est encore mieux. Ils auront pas c'est un par saison, mais vraiment saison du calendrier. Un effectif qui va... Alors là, pour le coup, cette fois, il est obligé de bouger parce qu'il n'était pas assez bon, mais on repart à zéro. Alors, à la rigueur, il part à zéro avec un entraîneur, donc très bien. Et voilà, je pense qu'en fait, que oui, l'entraîneur est important. Oui, c'est lui qui fera beaucoup de choses. Mais là, le gros chantier de l'OM, il est sur le terrain et d'avoir un recrutement digne de ce nom. Pas rester sur ce qu'on a vu l'hiver dernier avec Mumbanya, Ulysse Garcia... ou Jean Onana, le nouveau défenseur central buteur de l'OM. Enfin, faut arriver à quelque chose quand même qui ressemble à une équipe, parce que si l'équipe de l'OM a pris la tournure de la saison, l'OM est parti en cacahuète dès le début, c'est parce que voilà, rien n'était préparé, l'entraîneur est arrivé tard, l'équipe n'était pas adaptée, la marche Ligue des Champions était ratée, et tout est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de bouillie bizarre qui, encore une fois, est presque miraculeuse, parce qu'elle pourrait déboucher sur une victoire en Ligue Europa.
Mais... Donc, voilà. Alors, excuse-moi, je te coupe dans un argumentaire, mais juste pour rebondir là-dessus, je me dis qu'effectivement, s'il arrive avec des moyens limités, Marseille n'a pas de Coupe d'Europe. Alors, tu as un projet milanais qui sera tout autre en face. Ouais. Mais les coachs aussi, ils aiment bien arriver au début d'un projet où là, s'il arrive avant l'été, ou avec Longoria, ils peuvent se mettre d'accord sur certains profils, ou la pression, elle sera nettement moindre aussi, parce que tu sortiras peut-être d'une 8e, 9e, 10e place. Alors, à Marseille, il y a toujours une pression folle. Mais quand même, tu arrives... sur les épaules, t'en as un petit peu moins. T'arrives avec des joueurs que tu peux essayer de faire accepter à Longoria, ou en tout cas tu bâtis un projet, etc. Ça aussi, en tout cas, ça s'entend dans le projet, dans le profil qu'a Fonseca. Je trouve que il peut aussi trouver des bénéfices à une situation pour l'OM qui pourrait être inconfortable en fin de saison.
Non, mais c'est sûr. Mais encore une fois, je pense que la clé. Enfin, je serais Paulo Fonseca. Je sais. Enfin. Que j'aurais envie d'aller à l'OM, il avait envie l'année dernière, mais est-ce que j'aurais envie d'y aller maintenant avec tout le flou qui entoure? Alors sinon, il faut que ça se fasse, comme tu disais, très tôt dans l'été. Alors il n'y aura a priori pas de barrage, etc. Mais c'est trop de bricolage. Voilà, l'OM aujourd'hui, encore une fois, que cette équipe-là soit à cette position-là, en championnat, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'on disait mercredi qu'ils avaient perdu leurs illusions. Bah, ils ont perdu depuis longtemps parce que c'est une équipe qui n'avance pas, qui est complètement cyclothymique. Alors qu'il y a eu beaucoup de blessés, en effet. Et quand vous avez autant de blessés, c'est aussi qu'il y a eu un problème. On a parlé de la préparation qui était ratée avec Marcelino. Gattuso a voulu rattraper le coup, mais personne n'a jamais rattrapé le coup. Et quand on voit comme ils sont à l'arrache contre Benfica, alors ça rend le match épique, et qu'on se dit qu'ils n'avaient pas joué le week-end précédent... On est un peu inquiet pour la suite, voilà. Mais en tout cas, oui, je pense que des trois dont on parle, c'est lui le mieux. Moi, j'aimais bien la piste Galtier à un moment, mais on a l'impression que c'est terminé, que loin des yeux, loin du cœur, un petit peu, avec lui.
Francaise, très bien, mais Fonseca a entraîné l'AS Rome.
Oui, c'est plus le calibre de l'OM.
Voilà, arrivé à Marseille, quand tu n'as entraîné, entre guillemets, que Lens, même si tu as fait des choses exceptionnelles avec Lens, que tu as surperformé, il y a toujours un doute. Et contre Cessao, on retombe quand même dans un truc très volcanique, très tempétueux, avec quand même le saut Porto où il a fait des choses très très bien, notamment en Ligue des Champions. Mais malgré tout, on est sur un profil que l'OM a déjà utilisé, voire surutilisé. Les Gattuso, les Sampoli, les Tudor, voilà. Et je trouve qu'effectivement, Fonseca est une bonne solution médiane. Je ne sais pas s'il va résoudre les problèmes de l'OM, mais en tout cas, sur le papier, c'est cohérent.
On en saura plus, a priori, vers le mois de juillet. Oui. En tout cas, l'OM aura un nouvel entraîneur, c'est Jean-Louis Gasset.
Il en a ras la casquette.
L'homme qui compare Faris Mounbania à Jean-Pierre Papin.
Tu sens qu'il est fatigué, Jean-Louis
Gasset. Oui, mais c'est marrant parce que, alors évidemment, au début, moi, c'est quand je l'entends parler à chaque intervention qu'on sent que... ce sera bien que ça se terminera. Alors que paradoxalement,
t'imagines s'il ramène une Coupe d'Europe à Marseille,
il pourrait gagner une Coupe d'Europe. Ça fait qu'il y aurait eu les deux entraîneurs septuagénaires de l'OM auraient gagné une Coupe d'Europe, ce qui serait incroyable. J'ai quand même du mal, je le souhaite, la Bergame, le Bayern ou la Roma en finale.
Ah oui, c'est une autre histoire.
Ça me paraît difficile, mais après, bon.
C'est une autre histoire.
Ce serait beau.
Mais ce serait beau, regarde, tout le monde se souvient de l'épopée en 2018, même si ça s'est terminé.
Oui, mais c'était une équipe cohérente comme en 2004.
Fraîchement contre l'Atlético 3-0, ouais. C'est ça ?
Oui, mais c'est embêtant parce que quand tu perds.
Mais bon, tu te souviens des émotions, c'est les émotions qui comptent, Maxime. Ouais, tu es un sentimental en plus.
Hein. Mais 5 finales de Coupe d'Europe, un seul but marqué, c'est, à un moment, c'est ennuyeux. Et puis je pense que les supporters marseillais, tant qu'allez vous jouer une finale, ça serait bien d'en gagner une petite nouvelle.
Ouais, là, faut pas trop en demander quand même. Regarde l'équipe quand même.
C'est déjà un miracle absolu de les voir en finale.
Enfin, Marseille n'y est pas encore.
N'y est pas encore.
Troisième sujet, Maxime. Ouais. On va parler de l'OM. Bah, on va parler de Marseille-Nice avec des décisions arbitrales, on va dire litigieuses. Une expulsion de Mumbagna que je n'ai toujours pas saisie. Un pénalty en forme de compensation, mais une erreur ne compense pas l'autre. Hein, ça s'ajoute. Oui, et donc, c'était Monsieur Pignard, hein, me semble-t-il, qui
c'est d'ailleurs. C'est pas millésime.
qui d'ailleurs a été sanctionné, mais voilà, bon, on est encore une fois sur une des erreurs d'arbitrage. En même temps, il y avait Lille Monaco avec, je crois que c'est Minamino qui saccage un joueur lillois dans la surface de réparation, il attaque par derrière à la dernière minute. Et là, pour le coup, je crois que c'est Monsieur Turpin qui va même pas voir les images de la VAR.
Il va jamais voir les images.
Voilà, donc il va jamais voir les images, effectivement. Vous rajoutez à ça au-dessus une petite crise institutionnelle avec les patrons de l'arbitrage qui se tirent dans les pattes, des clubs qui n'en peuvent plus, des arbitres qui font des communiqués tous les 4 matins. Maxime, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'arbitrage français ? Est-ce que cet arbitrage français a complètement touché le fond ?
Ben, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il a touché le fond ? Je ne sais pas, j'espère. Et en même temps, le paradoxe, c'est que la semaine prochaine, vous aurez Clément Turpin à l'arbitrage de Bayern-Real et François Le Texier sur Roma, Bayern, Leverkusen. Donc, ce qui veut dire que les arbitres français ont une cote certaine à l'étranger. Tu sais, ça me fait un peu penser aux joueurs qui ne se comportent pas forcément bien dans un club français, mais quand ils partent dans un club à l'étranger, se tiennent à carreau, ils vont travailler plus ici, etc. Il n'y a rien à leur projet. Ça donne presque cette impression-là. Non, mais sérieusement, c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est qu'être arbitre, c'est dur, tout simplement. À la base, c'est ça. C'est que c'est un sport qui va vite, de plus en plus vite, même s'ils sont professionnalisés. Je donne toujours l'exemple.
C'est qu'ils ont des béquilles aujourd'hui.
Ouais, mais la béquille n'est pas bonne. C'est une béquille, c'est une jambe de bois, tu vois. Pourquoi ? Parce que, en fait, déjà, alors, la VAR, c'est une aide qui n'en est pas une. Pourquoi ? Parce que déjà, en fait, vous multipliez les avis. Déjà que l'objectivité n'existe pas, donc l'arbitre a sa propre subjectivité, mais vous rajoutez plusieurs personnes dans un quart qui ont leur propre subjectivité. Qui vous appelle ou qui sont censés vous appeler lorsqu'il y a une erreur manifeste ? Mais c'est quoi une erreur manifeste, vraiment, si on doit définir ? Une grosse erreur ? Mais c'est quoi une grosse erreur ? On la commence où, la grosse erreur ? Ce qui fait qu'on ne sait pas, en fait. Donc, ce qui fait que des fois, on appelle, des fois, on n'appelle pas. Et l'autre problème, et moi, ça, c'est lié à l'image et le football. Un arbitre est censé juger une action. Et quand on juge une action, c'est à vitesse réelle. C'est-à-dire que une image arrêtée, un ralenti, ce n'est pas la même chose. Ça trahit, ça travestit, en fait, l'action. Et le problème, c'est que l'arbitre qui est dans le stade devant le VAR, l'écran VAR, avec, il sait très bien que tout le monde voit les images en même temps lui, qui a la pression du public, c'est comme avec les mains. C'est-à-dire qu'il se dit, tu remarqueras l'automaticité aujourd'hui des sanctions sur des semelles. Les semelles, ça a toujours existé, ça n'a pas toujours valu des cartons rouges, ça ne valait pas toujours des cartons jaunes, ça arrive de mettre une semelle.
Et là, le pénalty de l'OM.
Et là, en l'occurrence, on a l'impression que comme il y a une image arrêtée qui montre un pied qui écrase un autre, il se dit « Non mais tout le monde voit comme moi, il lui a écrasé le pied, il ne sait pas contrôler, donc il y a forcément faute. »
On efface le contexte, en fait.
On efface le contexte, c'est ça. Les mains, c'est pareil, alors ça c'est mon grand combat. Déjà, mais lisez les textes, il n'y a jamais cette histoire de bras décollé. Non, il faut qu'il y ait une notion d'intentionnalité dans la main, c'est-à-dire que, et de geste naturel. Sauter avec les bras écartés, c'est un geste naturel. Si on touche la balle de la main, eh ben, c'est un geste naturel parce qu'on a le bras écarté. Si vous arrivez à sauter comme un pingouin, comme un manchot, les bras le long du corps, ben vous m'expliquerez, mais ce n'est pas possible. Mais comme vous avez des images arrêtées qui montrent clairement que vous avez touché le ballon de la main, l'arbitre, je pense, dans sa psychologie, se dit « Non, mais tout le monde voit comme moi, tout le monde a vu qu'il y avait main, il faut que je siffle », alors qu'il va à l'encontre de la règle et je ne comprends pas qu'il ne se fasse pas reprendre là-dessus sur les mains. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourtant, la règle, elle est très claire. Il n'y a pas d'histoire de bras décollés, il y a histoire de gestes naturels, etc., ou de position naturelle. Et je le répète, mettre les bras dans le dos quand on défend, c'est pas une position naturelle. Et pourtant, on siffle pas main si le ballon touche le coude. Donc voilà, c'est assez stupide. Et je pense que les arbitres, moi, j'ai pas envie de leur tirer dessus parce que ils sont pas aidés non plus. Tu parlais de la crise institutionnelle avec Stéphane Lannoy qui s'est fait dégager. Il y avait deux têtes, Gauthier et Lannoy, à la tête de l'arbitrage.
Ils ont gardé Gauthier, ils ont viré Lannoy.
Ce qui ne va pas aussi, c'est ça. Et que quand un président de club envoie un petit SMS pour dire ça va pas du tout et que l'autre répond, mais on est où là? Mais je finis là-dessus. On est où et que fait la Ligue? Enfin, dans les sports américains, si vous critiquez un arbitre, vous prenez énorme sanction. En fait, il faut aussi qu'ils soient plus sereins, les arbitres. Quand ils peinent des coups de pression comme ça tout le temps, ça ne peut pas aller. S'ils ne sont pas bons, en plus, ils prennent des coups de pression, ça ne peut pas aller. Donc, le fautif, ce n'est pas seulement le mec qui a le sifflet, c'est tout l'environnement.
En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 17 clubs sur 18 qui ne veulent plus du patron de l'arbitrage professionnel français, donc qui est Anthony Gauthier, qui a pris la suite de Stéphane Lannoy, qui était son boss avant, mais qui aujourd'hui a pris sa prérogative. Donc, 17 clubs sur 18. Il y a des clubs qui, aujourd'hui, dégaine un communiqué pour un oui ou pour un non, et donc on est dans un contexte autour de l'arbitre qui ne le pousse pas à prendre les meilleures décisions. Ça, on est bien d'accord, on est bien d'accord tous les deux. Après, il y a un problème pour moi des arbitres, leur comportement, leur arrogance. Et quand tu regardes, en fait, toutes les erreurs. Moi je me souviens de la demi-finale de Coupe de France Lyon-Valenciennes où il y en a eu quand même un paquet. On a eu OM-PSG avec l'expulsion de Beraldo, le but refusé à Veretout. On est dans des arbitres qui sont parfois dans des... Benoît Bastien il vient à la fin du match et il nous explique que tout est normal. Reconnaître ses erreurs, je pense que c'est déjà un premier pas. Être un peu plus ouvert, sourire, dédramatiser ce qui se passe sur le terrain, être moins dans une attitude martiale, je pense que déjà ce serait un premier pas. Ça décrisperait tout le monde et ça décrisperait peut-être les présidents de club, les joueurs, etc. Et je pense que ce serait une première ouverture. Après, la crise qui secoue l'arbitrage français, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les arbitres deviennent un sujet à chaque match, qu'on les voit trop. Ils deviennent les acteurs centraux des matchs. Ça a été le cas sur le dernier match, Marseille-Nice. On ne parle plus que de ça. L'utilisation du VAR. Quand Turpin ne demande pas à aller, quand on ne l'appelle pas pour aller voir ce tacle de Minamino, c'est ce qui rend le plus fou ça les entraîneurs. Vous verrez à chaque fois. Il n'est pas allé vérifier sur la télé. Mettons des choses, fixons un cap clair en fait sur l'utilisation du VAR. Et Anthony Gauthier, une de ses attributions, c'est ça, c'est que c'est le patron du VAR, c'est le patron de comment on utilise tout ça. Il y a du flou au-dessus, il y a du flou dans les règles, il y a des arbitres qui se prennent pour des cow-boys, il y a des présidents qui en plus mettent du sel sur les plaies. Bref, est-ce que l'arbitrage français touche le fond? Oui, et en plus tu l'as dit, il y a deux arbitres en demi-finale de Coupe d'Europe, il y a deux arbitres à l'Euro, si je raconte pas de bêtises, qui sont les mêmes. Le Texier, moi personnellement, je trouve que c'est un super arbitre, et Turpin aussi, il est souvent dans l'œil du cyclone parce qu'il fait les gros matchs et que parfois c'est là où ça se voit le plus, mais... C'est pas tellement le talent des arbitres français que je mets en cause, c'est plus la façon qu'ils ont d'exercer leur métier et surtout ce qui est sorti, c'est-à-dire aujourd'hui il y a du soupçon en plus du soupçon de copinage parce qu'il y en a qui veulent se placer, qui veulent prendre la place qui est laissée libre par le licenciement de Lannoy, donc il y a un appel d'air, donc il y a des mecs qui essayent de se placer, on a l'impression qu'on veut pas froisser un tel et tout, et donc là on est dans une ère en plus, on a toujours été dans l'air du les arbitres ça va pas du tout, mais là en plus il y a un soupçon, il y a un arrière-plan politique qui fait que il faut tout mettre à plat et il faut revenir à zéro en fait globalement.
Ouais. Ce que tu as dit c'est très juste sur les
je sais
sur la façon de se comporter, de pas venir en gendarme en fait, c'est ça, c'est qu'ils se prennent pour des gendarmes comme s'ils étaient là un contrôle routier.
Alors tu vois dans les autres championnats, alors
l'Angleterre c'est le meilleur championnat pour ça, mais après encore une fois voilà, il y a de la pédagogie, il y a du sourire, ils parlent, je pense que du coup il y a plus de respect, mais ça n'empêche pas non plus d'être nul hein, parce qu'Anthony Taylor celui qui a arbitré Marseille le barrage de Marseille, il est anglais, il a beau être sympa, il a planté son match.
De Real Valence où il refuse un but à Bellingham parce qu'il a donc effectivement, je veux pas dire qu'il y a pas d'autres fautes ailleurs, mais c'est juste aussi une... En fait là c'est aussi, on parle autant des erreurs que des tensions qui agitent tout ça et qui font que le contexte est très difficile à tenir pour les arbitres, mais juste voilà, un peu de sourire, un peu de bonne humeur, regardez ce qui se passe un petit peu à l'étranger. Et franchement, décrispons le débat, décrispons ces questions-là.
Alors après, il y a une question de pouvoir, la Ligue, mais la FFF.
Oui, il y a ça aussi derrière, exactement.
Moi, il ne faut surtout pas pour moi que les présidents de club ou la Ligue soient les patrons des arbitres. Pour deux raisons. Ça se fait très bien dans certaines ligues, notamment les ligues nord-américaines où les patrons des arbitres sont la Ligue et qui est aussi patronne des clubs. Mais c'est des ligues fortes, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui bouge sur un arbitre, il prend 25 000 $ d'amende. Si c'est grave, Rudy Gobert, il a pris 100 000 $ d'amende pour laisser entendre que l'arbitre était acheté. D'ailleurs, c'est presque pas beaucoup, je pensais qu'il prendrait plus. Demain, si les arbitres sont choisis par les clubs, là, c'est la fin du monde. Parce que là, on mélange tout. Et vu que les clubs ne savent pas se tenir et qu'il n'y a pas des amendes assez importantes, en fait, il faut taper dans le porte-monnaie simplement. Hop, tu files 30 000 $.
Ou des points.
Ou des encore points. Ah, points, c'est dur quand même.
Ouais, parce encore
que...
pire.
Mais tu files des grosses amendes et il faut être intransigeant. Et c'est là que la Ligue a un rôle à jouer. La Ligue, là-dessus, elle doit être intransigeante. On ne critique pas l'arbitre ou on le fait. Oui, il faudrait des sessions de débrief, etc., où ils expliqueraient ce qu'ils font. Parce qu'on en revient aussi, ça doit arriver, la sonorisation des arbitres. Moi, je suis toujours convaincu que c'est une immense connerie. Parce que M. Pignard, si mercredi, il explique qu'il y a pénalty en direct dans le stade, alors le public sera très content parce que c'est au Vélodrome, mais ça expliquera pas.
Ouais, mais je pense que ça participe quand même à la pédagogie.
Ah oui,
je
mais
pense que,
alors...
En fait, ça les fait descendre un peu de leur tour d'ivoire. Diallo, oui. Le président Diallo de la FFF disait en début de...
Président Diallo.
En début d'année, il parlait d'un arbitrage ouvert et moderne et il voulait humaniser les arbitres. Ouais, on veut qu'ils communiquent. Moi, j'étais à fond mais là-dedans.
Pas pendant.
Allons-y. Et qu'est-ce qu'on a, je ne sais pas, 8 mois après, parce qu'il dit, c'était avant le début de la saison, on n'a jamais eu des arbitres aussi robotiques, en fait.
Ah oui.
Si tu leur donnes la parole déjà, quelque part, tu brises une barrière.
On les a robotisés puisqu'on leur a filé des images.
Tu brises une barrière. Oui, mais oui.
Et c'est vrai que Turpin, à l'inverse, lui, donc il ne va pas trop vers le VAR. Et on lui reprend. En fait, on reproche tout et son contraire aux arbitres. C'est cette fois d'y aller trop et de trop se fixer sur une image fixe, pour le coup, ou ralentie, et un autre qui n'y va pas assez. C'est compliqué parce que est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer dans leur formation, tout ça. Moi, je pense qu'il faut.
Dans la communication, je pense qu'il y a beaucoup de choses
mais
à améliorer.
La sonorisation en plein match, moi, je pense que ça efface. Qu'est-ce que tu vas dire sur le pénalty pour Monaco?
Oui, mais
il n'y a pas faute.
Peut-être que tu comprendras des
choses. Tu comprendras qu'il s'est trompé.
Tu comprendras sa logique.
Sa logique.
Oui, mais tu comprendras sa logique. Mais oui. malgré tout.
Alors
tu
ça, c'est
sa
valable
logique.
Pour le but refusé à Veretout. Parce que tu peux dire, voilà, il gênait, etc. Oui. Alors que tu vois très vite qu'il n'est pas du tout gêné. À la rigueur, tu peux défendre. Mais sur une semelle, à pénalty, il a mis une semelle. Oui, sauf que le ballon n'était pas.
Il expose ses arguments. Aujourd'hui, les arbitres, alors ils viennent de temps en temps sur le plateau de Prime pour débriefer. Je trouve ça à chaque fois. Voilà, plutôt pas mal. Ça démine quand même le débat. Je trouve que ça, tu vois, ça leur donne une voix et malgré tout, on peut continuer à ne pas être d'accord avec eux, mais quand même, je trouve que ça apaise un petit peu quand même d'avoir la vision.
Je pense qu'il faut le faire à froid, moi, parce que à chaud, tu vois, ça PSG Marseille, comme tu dis, Marseille PSG, il est venu s'expliquer. Bah, ça reste des conneries quand même, voilà. Et le but, il a beau dire ce qu'il veut, c'est pas. Et ça aurait été pareil mercredi avec Monsieur Pignard, donc. Je pense qu'il y a déjà gagné en sérénité, apprendre aux arbitres à se comporter de manière un peu moins cow-boy, ne pas croire qu'ils ont une ceinture à holster et tirer des coups de fusil, ça ira mieux et d'avoir ce comportement, voilà, parce que c'est ça qui ne va pas aussi, c'est que personne ne fait d'efforts et ils sont censés tous vivre ensemble, footballeurs, joueurs, dirigeants et arbitres, finalement ils s'ignorent un peu. Et ça s'arrangera déjà quand il y aura des réunions. Peut-être qu'on peut imaginer en semaine, le mercredi, débrief des arbitres avec un dirigeant de club qui prend une heure pour expliquer comment ça a été arbitré, etc. Et des incompréhensions. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Donc,
Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils n'ont pas le même maillot. Mais
ils ont la même passion.
Ils ont la même passion, Maxime. Ça, c'est pour les plus vieux d'entre nous.
C'est quoi? C'était la Poste, non?
C'était la Poste, ouais.
Ou la Butte?
Non, c'était la Poste. C'était la Poste. On n'a pas le même maillot, on a la même passion, c'était les arbitres. Voilà.
Mais après, encore une fois, hein, très vite, pour finir, c'est toujours eu des problèmes d'arbitrage.
Oui, voilà. Oui, mais là, il y a du doute, il y a du...
Oui, parce que tu acceptes...
Il y a un arrière-goût qui est un peu dégueulasse.
Mais parce que tu acceptes plus le doute, parce que tu
pars de
penser
qu'il
y a des images, alors que c'est des conneries.
Oui. Merci, Maxime. C'était brillant. Merci à Simon.
T'as vu, j'ai bien noirci ma feuille quand même.
Ouais, t'as bien noirci ta feuille, j'arrive pas à te relire.
Ça, c'est une technique.
Tu devrais être médecin, Maxime.
Ouais, bah alors là, il aurait fallu que je sois bon en maths.
Oui.
Et ça, c'est... Non,
moi, déjà, il aurait fallu que tu sois bon.
Il aurait fallu que je sois bon.
Alors oui, est-ce que... Non, t'es pas vraiment tombé
dans
le
gagnant. Bah non.
De temps en temps, un petit... Attends, on va dire la vérité, on va être tout à fait franc. On va quand même faire une coupe.
Une coupe. Ah oui,
il va devoir faire du montage parce que tu t'es quand même cagué sur un truc que nos auditeurs n'entendront pas.
Oui, non, mais c'était...
Non, mais oui, là.
J'ai perdu un match.
Voilà.
Et je cherchais. Il y a un truc avec Nantes. Voilà. Alors, je sais que Nantes, 95, perdent qu'un match et perdent à la 32e journée, mais c'est pas ça. Mais je vous retrouve.
Tu t'es quand même vautré une fois. Mais...
Ça arrive.
Mais ce qui est bien.
Et mais il faut dire aux gens.
Moi, c'est zéro, toi, c'est. Oui. Voilà. Oui, moi, on devrait compter les coupes. On devrait compter.
Mais toi, t'es dans la. Moi, je suis allé chercher un truc il y a 30 ans, tu vois. Il fallait que...
Bah, ouais, mais qui est défaut.
Bon, y a pas... C'est une émission, il n'y a pas beaucoup de coupes, quand même. Non, mais globalement.
C'est vrai. Mais généralement, celui qu'on coupe, c'est quand même plutôt toi, parce que moi, je suis quand même beaucoup plus solide sur mes appuis. Si on... Non, mais si on fait le bilan.
Ah bah ça, j'en sais rien.
De 8 ans.
Bah... Ça, c'est tes stats.
Ah ouais, mais elles sont bonnes.
Comme l'arbitre, tu vois, il a remis en cause. Voilà.
Mais alors, les arbitres doivent se remettre en cause parce qu'il y a des problèmes. Mais quand t'es bon, il n'y a pas question de se remettre en cause. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Maxime.
Ouais,
on va parler prochaine. Et on parlera de l'OM et du PSG, bah là, de la Coupe d'Europe. Ça va être sympa comme
je dis. Je pense qu'on parlera de PSG Dortmund et de Atalanta Bergame, Marseille.
Ouais, on a hâte. Cette semaine, elle va être belle. Et bah, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Bah, merci Stream Simon Farvac.
J'ai déjà
à
fait
la réalisation.
J'ai déjà fait. Donc t'écoutes pas. Voilà.
Ça sera une coupe. Ça fera une coupe de plus.
Ouais, voilà. Une coupe de plus.
Allez, salut.
Ciao.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.